puisqu'en contemplant l'immensité de la justice de Dieu, nous constatons aussi nos manques, reconnaissons notre besoin de lui et de sa miséricorde, avec les mots d'Augustin d'Hippone. De toutes mes forces, celles que tu m'as données, je t'ai cherchée, désirant voir ce que j'ai cru. Et j'ai lutté et j'ai souffert. Mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espérance, accorde-moi de n'être jamais lasse de te chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ton visage. Donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus. Devant toi est ma force, devant toi est ma faiblesse. Garde ma force, guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science, devant toi est mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime. Augmente en moi ces trois dons jusqu'à ce que tu m'aies reformé tout entière, tout entier. Et nous chantons le chant 4305, strophes 1 et 2. 4305, strophes 1 et 2. L'annonce du pardon de Dieu avec les paroles du prophète dans le livre de l'Apocalypse. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le ciel d'avant et la terre d'avant s'en étaient allés et la mer n'était plus. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici, la demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu, sera avec eux, et il sera leur Dieu. » Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses d'avant s'en sont allés. Et celui qui siégeait sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et nous poursuivons le chant 4305 avec la strophe 3.
Nous écoutons l'expression de la volonté de Dieu. Nous pouvons nous relever, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous, dans la force de faire, avec ces paroles de la lettre aux Colossiens. Faites donc mourir ce qui n'est que terrestre en vous. Les mauvais désirs, l'avidité qui est idolâtre, qui est idolâtrie. Rejetez ainsi toutes ces choses, colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'Adam ancien avec ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Là, il n'est plus question de grec ou de judéen, de circoncision ou d'incirconcision, d'étranger, d'esclave ou d'homme libre. Mais le Christ est tout et en tous. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous d'une tendresse pleine de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce si quelqu'un a à se plaindre de quelqu'un d'autre. Comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi. Faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Et nous chantons la strophe 4. Du même chant 4305.
À vous asseoir. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Accorde-nous ton esprit maternel et créateur pour que nous la recevions en vérité et avec joie. Que cette parole te révèle aujourd'hui et nous fasse porter les fruits que tu attends, nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ. notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, nous lisons du verset 31 au verset 35. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera aussitôt. Mes enfants, je suis avec vous encore un peu de temps. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Judéens, là où moi je vais, vous, vous ne pouvez pas aller. À vous aussi, je le dis à présent. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. En ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Je dois vous avouer que ce n'est pas sans une certaine crainte qu'on aborde pour une prédication un passage aussi célèbre que nous avons un peu tous et toutes en tête dans notre imaginaire chrétien, pour ainsi dire, au point où il définit à lui seul, en quelques mots, l'essentiel du message qui nous fait vivre, qui donne du sens à nos actions, à nos vies même. Non sans raison, puisque Jésus, vous venez de l'entendre, définit bien ce commandement de l'amour les uns pour les autres comme suffisant à lui seul pour identifier sans faute qui est un disciple. Sans doute, nous le mettons en lien aussi avec les formulations des deux commandements essentiels énoncés dans les autres évangiles. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Et celui qui lui est semblable, dit Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En somme, l'amour est au fondement de tout, dans la formulation de ce commandement suprême. Seulement voilà, entre connaître et confesser le commandement, et l'accomplir, car c'est bien sa réalisation qui fait le disciple. Il y a tout l'écart qu'une vie humaine peut éprouver entre le bien auquel chacun aspire et la réalité avec laquelle nous devons faire face chaque jour qui passe. Non seulement l'exigence de cet amour mutuel qui est requise de nous, nous l'Église, nous dans l'Église, mais nous, chrétiens, avec nos proches, nos familles, nos amis, nos ennemis, cette exigence ne semble pas toujours réalisable, mais elle paraît de toute façon bien en décalage, non moins aujourd'hui que dans les siècles passés, avec la règle du monde entier qui semble plutôt s'écrire en ces termes « Consumez-vous les uns les autres, bombardez-vous les uns les autres, haïssez-vous les uns les autres. » De quel poids alors peut-on bien peser avec tout notre amour chrétien face à cette citadelle immense d'hostilité? Jésus, dans notre texte, s'adresse spécifiquement aux disciples, aux 12, moins Judas, et leur commande de s'aimer entre eux, visiblement. On pourrait alors penser que Jean, stratégiquement, restreint l'amour du prochain exprimé dans les autres évangiles à la dimension uniquement communautaire, interne. D'autant que Jean insiste énormément dans son écrit sur l'hostilité du monde envers Jésus et les disciples. Le monde devient pratiquement chez lui synonyme de royaume du mal et des ténèbres, dans lequel l'Église est comme un petit îlot de lumière. On ne peut superposer ces deux réalités ni les confondre. Pour autant, je ne crois pas que Jean nous exhorte au repli et à faire complètement sécession. Aussi, j'ai quand même espoir d'arriver à dire encore quelque chose et de trouver dans ce passage ce qui nous aiderait à y voir plus clair sur ce qu'est cet amour qui fait les disciples du Christ. Où nous situons-nous ici? C'est le dernier repas entre Jésus et les 12. Jésus a lavé les pieds des disciples, partagé le pain et annoncé par ce même geste que Judas allait le trahir. Celui-ci alors s'en va dehors faire vite ce qu'il a à faire, dit le texte. C'est la nuit. Avant toute chose, donc, c'est dans ces heures obscures, dans ce moment de bascule où la trahison va entraîner l'arrestation, le procès injuste, les sévices et la mise à mort. C'est au cœur d'un enchaînement tragique qui est le portrait même de ce que vit notre humanité quand la succession des événements fait grandir le sentiment et la certitude même de la catastrophe à venir est déjà en cours. C'est à ce moment-là que Jésus nous parle de gloire et d'amour. Devant l'évidence de l'amitié brisée en Judas, devant l'évidence du sort effroyable qui l'attend et qu'il a d'ailleurs annoncé à plusieurs reprises, Jésus, par le simple fait de cette parole, déjà, fait entrevoir à travers les ténèbres l'éclat d'une réalité tout autre. Il aurait pu à cet instant un peu mieux éclairer les disciples sur ce qui est en train de se jouer. En fait, ils n'ont pas bien compris ce que Judas s'apprêtait à faire. Ils n'envisagent absolument pas la crucifixion et l'échec horrible. D'ailleurs, quand à nouveau plus tard dans son discours, Jésus fera allusion à sa disparition, comme ici, à sa mort, ils ne comprendront toujours pas. Mais ce n'est pas ça que Jésus fait. Ce qui compte à cet instant, plus que tout, c'est cet amour qui les lie entre eux, au-delà de toutes les trahisons en cours et les renoncements à venir. Cet amour qu'il vient encore de montrer en acte, en leur lavant les pieds, comme serviteur, lui, leur maître, leur rabbi. Oui, ce qui est annoncé déjà par ces paroles, c'est qu'au-delà d'une maîtrise des événements et d'une compréhension complète que nous ne pouvons en fait jamais vraiment atteindre, l'ancre qui nous retient pour ne pas être ballotté par les flots, sombrer dans l'apathie, le désespoir ou l'agitation vaine, c'est la pierre angulaire et solide comme le roc de cet amour. Il est la base de toute vraie connaissance. Il est toujours déjà donné par Dieu déjà réalisé et déjà incarné en Christ. Aussi, il le dit, c'est comme je vous ai aimé déjà. Ensuite, vous pouvez vous aimer les uns les autres. Nos efforts pour mettre en acte cet amour ne sont pas alors des preuves à donner pour nous faire mériter quelque chose, mais sont les fruits de ce don premier. Je pense que vous saisissez alors qu'il ne s'agit pas de se replier dans notre communauté, mais de continuellement se ressourcer à cette réalité première pour mieux partir ensuite dans le monde, sortir à notre tour dans la nuit, comme les disciples vont suivre Jésus à Gethsémani. Et même si, comme eux, devant le drame, nous ne comprenons pas tout immédiatement, et s'il nous faut passer par des abandons, des découragements, des fuites et des chutes, la force de cette parole prononcée et incarnée en Jésus fera que toujours ce fondement solide, ce lien véritable de l'amour mutuel, au-delà de ce qui est seulement visible dans les événements, demeurera et résistera à toutes ces épreuves. Il n'est plus la question simplement d'une volonté humaine abandonnée à ses propres forces, mais d'une volonté humaine assumée et transformée par l'action de Dieu, par la grâce qui toujours nous retrouvera à travers le pardon, le réconfort, un regard comme celui de Jésus porté sur Pierre qui le renie. J'aime à penser que, alors même que les disciples, pour la plupart, avaient trahi l'amour envers leur maître, et après qu'ils furent dispersés par groupes, chacun de son côté, puisque de toute évidence, tout était fini avec la mise au tombeau, ils ont continué malgré tout, peut-être malgré eux, sans le savoir, par cette grâce invisible, à observer au moins ce commandement-là ultime qui leur a été donné, de s'aimer les uns les autres. En effet, c'est toujours en groupe, assemblés, que Jésus les retrouvera quand il leur apparaîtra ressuscité. Si ce lien d'affection et de solidarité n'était pas demeuré, ce petit reste de fidèles déçus aurait sans doute été encore plus incrédule face à cet énorme retournement du sort. C'est donc bien cet amour qui, comme le dit Jésus, faisait qu'ils étaient disciples, au moment même où il semblait qu'ils l'étaient le moins, puisque leur maître n'était plus et qu'ils semblaient avoir démérité ce titre par leur manque de vertu. Je pense qu'on trouve déjà là au moins une grande source de réconfort et d'encouragement. Pour toutes les fois dans notre temps où il arrive que l'Église manque visiblement à sa mission en tant qu'institution, au moment où il aurait fallu agir, parler dans le monde et contre ce qui s'y passe, quitte à prendre un risque. Nous pouvons nous rappeler alors qu'au-delà de nos faiblesses, la réalité profonde de cette assemblée des enfants de Dieu, ce n'est pas la démonstration constante de nos vertus ou de nos qualités, mais c'est ce lien d'union spirituelle qui opère un véritable miracle, continu et répété. Le simple fait que nous soyons assemblés, réunis autour d'un appel, d'une parole dont les échos résonnent pour chacun et chacune d'entre nous. Cette assemblée où se croisent des histoires et des vies qui, sans doute, autrement, ne se seraient jamais rencontrées. Et non pas, j'insiste, pour former alors comme un havre isolé du reste du monde, mais comme la tente posée pour la halte avant de partir, comme le sanctuaire nomade au désert, où la présence de Dieu se donne à voir ici peut-être un peu plus clairement, par la réalisation temporaire, certes, comme peut l'être un temps de culte ou de prière, mais néanmoins réel, la réalisation du royaume de Dieu ici et maintenant. Ce foyer de lumière et d'une vie animée par l'Esprit Saint ne s'étouffe pas en se repliant sur lui-même, mais au contraire rayonne par l'action et le service. Pour ne prendre qu'un exemple ici, à Port-Royal, quartier latin, l'association diaconale, le Diafra, et son aide aux apprentissages pour les enfants du quartier, les visites aux membres lointains et isolés, son accompagnement dans toutes les démarches pour les familles exilées face à une politique de plus en plus inique. Et tous les instants qui nous rassemblent. L'Église, comprise ainsi comme le lien de l'amour des uns pour les autres, devient un foyer de transformation des rapports humains, un germe de ce que nous espérons voir étendu à la dimension du monde entier, et précisément la source qui nous donne la force d'œuvrer à cette mission. Tout humain devient le prochain qui m'est donné à aimer, puisque l'expérience continue de ce miracle, de la communion ensemble, est la preuve et la garantie offerte par Dieu lui-même que ce lien est possible. Et ainsi, en effet, tous, le monde entier, saura que nous sommes disciples, parce qu'il verra et éprouvera, par notre être et notre agir, la présence de Dieu au monde. Comme Dieu est venu à nous assumant les traits d'un homme qui a porté des gestes et des paroles et des regards de pardon et d'amour, à nous aussi qui sommes son corps mystique, c'est-à-dire à une réalité invisible mais réelle, c'est à nous de continuer sa présence dans le monde. Nous sommes collectivement le Christ et le germe de la résurrection de l'humanité à une vie nouvelle, où les logiques anciennes de domination, de prédation et de mépris ont disparu, et où l'humain devient précieux à l'humain. Voilà ce que les disciples avaient besoin d'entendre à ce moment, et qui nous est rappelé chaque fois par l'écoute de l'Écriture, la prédication, la communion à la Sainte Cène, aussi dans nos moments de doute, de friction, quand la solidarité n'est pas évidente et qu'il faut parfois plus se supporter que s'apprécier, que la tâche est tout simplement difficile et qu'on rechigne et qu'on s'irrite. Ayons aussi en tête que l'amour dont il est question ici, cet agapé en grec, comprend une dimension au-delà de l'affection immédiate. Il s'agit d'aimer, certes pas en niant totalement nos émotions comme une sorte de devoir à accomplir froidement par pur sens de l'obligation, mais en replaçant tout ça en regard de l'amour divin auquel tout humain sans condition et exception est appelé et qui fonde sa dignité inaliénable. Ainsi, sans effacer les affections que nous porterions spécifiquement du fait de notre histoire personnelle à nos plus proches, famille ou amis, cette forme d'amour-là nous ouvre à une perspective plus large, sans aucune hiérarchie, et qui demande donc un type d'engagement particulier. C'est là précisément que sa réalisation et sa dimension collective prend tout son sens. Les faiblesses individuelles sont transformées par la force qui émerge du collectif. Mais bon, une fois avoir dit tout cela, une fois un peu mieux saisi tout ce qu'implique ce commandement, a-t-on pour autant réglé la question de notre impuissance apparente que j'évoquais au début ? Cette œuvre est-elle réalisable encore aujourd'hui alors que plus que jamais les forces contraires s'acharnent ? C'est là, il me semble, que la mention parfaitement étonnante de la gloire en ouverture du discours de Jésus peut nous éclairer. Le simple fait de commencer par cette affirmation « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié » est un défi aux limites du temps et de l'espace, parce qu'il semble de toute évidence que ce ne serait pas le cas. Jésus avait déjà annoncé à son arrivée à Jérusalem que le Fils de l'homme allait être glorifié. Et il faisait aussi allusion par l'image du grain qui meurt en terre et en disant qu'il allait être élevé à la crucifixion qu'il subirait. Saisi un moment par le doute pour reprendre force et courage d'accomplir ce qu'il devait, il s'était adressé à son Père « Père, glorifie ton nom » et une voix céleste lui avait répondu « je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Eh bien, dans notre passage, encore une fois, la gloire du Père se révèle dans celle du Fils et se joue du temps, car elle est toujours comme déjà existante. Il a été glorifié. Elle est passée, présente et à venir. Au moment de la trahison nocturne, au moment où tous les disciples s'illusionnent encore en partie sur la mission de leur maître, Jésus pointe vers une réalité éternelle, proclamant ainsi que l'histoire telle qu'on la voit se dérouler n'est pas la fin de tout horizon et de toute espérance. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils dans toute sa dimension humaine, fait rayonner la gloire du Père. Et le Père fait rayonner en lui-même, est-il dit, la gloire de son Fils. En son sein, on pourrait dire. Comme il l'était de tout temps, comme Jean le dit au prologue de son évangile, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En fait, par ce langage de la gloire, Jésus révèle la relation intime des personnes divines, la communication mutuelle incessante du souffle sacré, d'amour de l'une à l'autre, et à laquelle nous aussi nous pouvons participer par le Christ incarné. Dieu se fait humain pour que l'humain entre dans la vie divine. Par ce préambule étonnant, Jésus donne le sens du commandement d'amour qui suit. De même que le Père aime le Fils et celui-ci en retour, de même nous nous aimons les uns les autres. La vie de communion que nous devons étendre au monde entier est le prolongement de la vie de Dieu lui-même. Voilà une première assurance fondamentale pour ne jamais totalement se décourager dans cette mission, c'est de savoir qu'elle a ses racines dès avant la fondation de l'univers, en Dieu lui-même. Ce qui est plutôt rassurant. Ensuite, si l'on s'arrête sur ce mot même de gloire, et si nous le regardons bien, nous avons une perspective pleine d'assurance. La doxa, le mot en grec, renvoie à l'éclat, à la lumière, aussi à la renommée, à l'idée que l'on a de quelqu'un, et donc plus largement à l'opinion. Or, de prime abord, toutes ces dimensions sont précisément dans l'ordre premier du monde au sens négatif tel que le dénonce Jean, c'est tout ce qui cause la perdition et l'erreur. C'est l'éclat, la renommée, la gloire des grands hommes, des grands mâles conquérants, des chefs de guerre, des richissimes, des célèbres de tous les temps, dont regorgent à en vomir les livres d'histoire et les monuments, et qu'encensent aujourd'hui les clergés médiatiques. C'est l'exigence de beauté et de succès matériel et social, jamais vraiment atteignable, érigée en but désirable, jusqu'à en provoquer la souffrance et des comportements autodestructeurs, notamment chez les plus jeunes. C'est le vacarme des opinions infondées, érigées comme une vérité alternative, l'usage du mensonge, de la désinformation comme arme pour épuiser peu à peu même les meilleures volontés et pour nous décourager de pouvoir finalement croire en quoi que ce soit. C'est les dogmes et les idéologies mortifères. Cette brillance-là, cette gloire-là de ce monde, comme dirait Jean, repousse par contraste dans l'obscurité, l'infamie, la négligence, dans les marges de l'histoire des vainqueurs, tout ce qui n'est pas elle, les femmes, les colonisés, les minorités, celles et ceux qui n'ont pas le corps ou l'esprit comme il faut, celles et ceux qui restent sous les vocables dont on a voulu les affubler, hérétiques, sauvages, barbares, sorcières, ratées, tarées, cas sociaux, pervers, dissidents, terroristes, et j'en passe. Tout ce qu'étaient en somme aux yeux de l'Empire de l'époque nos ancêtres dans la foi, les premières communautés chrétiennes, auxquels s'adressent les évangélistes. Mais voilà, l'Empire, lui, au moins sous la forme qu'il avait à l'époque, n'est plus. César est mort et Christ, lui, vit toujours. En contraste, la gloire du Christ, nous l'avons vu, c'est la vie de même de Dieu qui est amour et qui s'accomplit depuis l'éternité jusqu'ici-bas dans le temps, par nous, son Église, et en tout humain de bonne volonté. Nous comprenons alors qu'elle prend parfaitement à revers la fausse gloire, l'éclat artificiel et ténébreux du monde, dans lequel elle vient se nicher comme le levain dans la pâte, afin de le transfigurer et pour qu'il brille enfin d'une lumière vraie. La gloire du Christ, c'est une gloire qui va contre cette autre gloire. Si l'on joue sur le mot, c'est une doxa proprement paradoxale, qui justement renverse les présupposés, s'arme de tout ce qui est faible aux yeux des puissances mondaines. Elle est celle dans laquelle l'amour agapé s'accomplit quand le plus grand est le serviteur de tous, où la concurrence absurde, le jugement et le préjugé fondés sur des conditionnements qui nous enfermaient se brisent enfin pour laisser s'épanouir d'autres relations bien plus authentiques. Elle est le courant de vie à contre-courant des logiques de mort et de vengeance, l'écho patient et laborieux de la vérité contre le bruit insolent et tapageur du mensonge. C'est le travail constant de la lucidité. Chacun et chacune a de quoi apporter à cet édifice. En ce sens, certainement, et pour finir, on peut bien dire que c'est un commandement nouveau et une œuvre nouvelle. Non pas que s'aimer les uns les autres devenait nécessaire et vrai uniquement à ce moment-là de temps et de la vie de Jésus, car c'est en fait depuis toujours la loi de Dieu pour l'humanité qu'il veut sauver, et c'est par cette loi même d'amour qu'il réalise ce salut. Mais c'est un commandement nouveau parce que cette œuvre est toujours continuellement à reprendre, à renouveler, et devient elle-même source de renouveau. Dans son accomplissement, peu à peu, nous sommes transformés, et tous nos frères et sœurs en humanité avec nous. Nous devenons un même peuple en marche pour vivre dans la plénitude de la vie de Dieu. Puissions-nous alors toujours être en veille et à l'écoute, prêts pour être et agir en disciples selon ce que Dieu mettra de nouveau sur notre chemin. Et aussi parfois trouver la joie de se laisser surprendre par ce que peut accomplir l'amour. Amen.
Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi avec le texte que vous avez sur votre feuille de culte, que nous allons lire ensemble. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et nous chantons le 3406, page 440, toutes les strophes.
Moment de la prière d'intercession, c'est la prière les uns pour les autres. Je voudrais juste vous faire part, avant de la lire, d'une volonté d'intention un peu particulière que je vous propose au moment où je laisserai un silence pour chacun, parce que je n'ai pas souhaité modifier outre mesure le texte déjà écrit. De mettre dans vos intentions, si vous le souhaitez, une pensée, et c'est dans la suite un peu des annonces de Valérie, de penser aujourd'hui pour tous ceux qui, dans notre pays, craignent pour l'exercice paisible et libre de leur religion, quelle qu'elle soit, et aussi plus largement dans le monde. Seigneur notre Dieu, répands ton esprit sur nous tous qui sommes baptisés au nom de ton Fils, sur nos enfants, sur toutes celles et ceux qui errent au loin et n'entendent pas ta voix qui les appelle. Répands ton esprit sur celles et ceux qui souffrent sans comprendre, sur celles et ceux qu'accablent l'injustice et l'oppression, sur celles et ceux qui chancellent sous le poids de leur croix. Répands ton esprit sur celles et ceux qu'aucune voix amie ne vient guider, sur celles et ceux que personne n'appelle par leur nom, sur celles et ceux qui, au milieu de la foule, restent enfermés dans leur solitude. Nous te prions pour les responsables des nations qui rêvent de leur imposer silence. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix et qui fuient devant la force des puissants. Nous te prions pour les riches qui ferment leurs oreilles aux cris des affamés. Nous te prions pour les affamés que révolte l'inconscience des riches. Nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que les armes pour instaurer la paix. Nous te prions pour les artisans de paix qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans l'insouciance de leur bonne santé, se préoccupent uniquement de leur corps. Nous te prions pour les malades qu'angoissent la souffrance, la solitude et la mort. Nous te prions pour les croyants sans cesse guettés par le doute et pour les incroyants que la soif de comprendre et la joie de vivre rapprochent mystérieusement de toi. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière et tous nos frères et sœurs en humanité. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Seigneur notre Dieu, qui a fait d'un troupeau sans berger un peuple de prêtres et d'héritiers du royaume, unis par le lien de l'amour, donne-nous en abondance la vie apportée en ce monde par Jésus ton Fils, qui nous a enseigné cette prière que nous élevons vers toi, en communion avec ce peuple qui défie le temps et l'espace. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Pour l'exhortation, je vous invite à vous relever. Nous allons nous exhorter tous ensemble par le chant au 52-17. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait rayonner son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Bon dimanche.